Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Okapi qui vous accorde à nouveau la parole dans ces débats citoyens. 1er mars 1968, 1er mars 2018, cela fait exactement 50 ans que l'ordre de médecins a été institué par une ordonnance présidentielle en RDC. Une certaine opinion estime que cette institution a fait face à plusieurs critiques, pointant la nécessité de réviser les textes relatifs à son fonctionnement. Parmi les problèmes qui se posent, les conditions d'inscription à l'ordre, la problématique de médecins étrangers qui exercent en RDC et la qualité des médecins de l'ordre qui exercent à travers le pays. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@katiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 5000 à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie et Piero Elameji est à la réalisation de ce programme. Nico Kalambay est au standard de cette émission supervisée par Martin Sebou Jangui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
50 ans après, quel bilan faire? Nous recevons dans ces studios Dr Nsadi Berthier, qui est le président du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors vous êtes notre invité 50 ans après, quel bilan faire?
50 ans après?
C'est 50 ans.
50 ans après. C'est difficile de faire un bilan exhaustif. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Ordre des Médecins a parcouru 50 ans. L'Ordre des Médecins a tenu un certain nombre d'activités. Les plus en vue, c'est les congrès. L'Ordre des Médecins a tenu un total de 5 congrès. Les congrès sont des moments extrêmement importants pour l'Ordre des Médecins. Et l'Ordre des Médecins a tenu, à travers le pays, des activités, notamment des journées déontologiques. Toutes ces activités-là ont concouru à doter l'Ordre des Médecins des différents outils juridiques pour pouvoir exercer sa mission. Et l'Ordre des Médecins est, comme vous l'avez dit, confronté à la réalité de la situation qui ne vient pas directement de la sphère médicale, mais surtout en amont, c'est-à-dire tous les processus qui amène à livrer au pays un médecin formé. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire au stade actuel, les contextes.
Voilà.
Maintenant, alors, du bilan, énormément de choses ont été réalisées. Ce que je peux dire, moi, par rapport au rôle de l'ordre
si médecin... Si nous restons dans la mission assignée à l'ordre.
Voilà. Voilà. Que nous pouvons qualifier, je pourrais dire, des combats. Des combats, des moments d'explication très souvent avec nos gouvernants pour pouvoir réguler et réglementer les choses, pour pouvoir donner au pays le médecin qu'il faut selon les prescrits tant nationaux qu'internationaux.
Alors, c'est d'actualité. Vous avez fait face à plusieurs difficultés,
énorme,
notamment le problème de la régulation et de la réglementation.
Le problème de la régulation, c'est la mission de l'Ordre des Médecins. Mais pour que l'Ordre des Médecins exerce sa mission correctement,
il faut la collaboration de tous,
il faut
le gouvernement notamment.
Avant tout, d'abord les outils. C'est une question d'outils juridiques. Et deuxièmement, il faut la collaboration avec les autres structures, notamment les autres ministères. Et ici, l'Ordre des Médecins ne peut pas travailler sans, en dehors de son ministère de tutelle, bien sûr, sans le ministère de l'enseignement supérieur qui lui fournit les médecins. Parce que la régulation de la pratique médicale commence d'abord par le médecin, la qualité du médecin, le médecin qui est formé, et c'est celui-là que l'ordre dote d'un certain nombre
de... Mais la question de la qualité des médecins, aujourd'hui, laisse à désirer. Ou se pose avec acuité ces problèmes.
Oui, le problème se pose. Et le problème, justement, il est posé...
C'est vrai, quelque
part,
on peut dire que c'est discutable, mais vous, en tant que représentant de l'ordre, est-ce que vous partagez l'avis d'une certaine opinion qui pense que la qualité laisse à désirer?
Je ne peux pas dire que ce sont des assertions qui ne sont pas fondées. Non, ce ne serait pas correct. Il n'y a qu'à voir la situation, l'environnement dans lequel nous évoluons maintenant en ce qui concerne les universités.
Notre espace médical, par exemple.
Exactement. Je voudrais rappeler à l'opinion ceci. L'ordre des médecins enregistre les médecins. Et après, l'ordre des médecins veille à ce que ces médecins-là observent un certain nombre de choses, notamment des devoirs déontologiques et des devoirs professionnels qui leur sont assignés. Mais ce médecin-là, il vient pas de l'ordre des médecins. Il vient en amont
des universités.
Bien. Quelle est la situation de nos universités? Je pense que par rapport à la qualité des médecins, le problème se pose à ce niveau-là.
En amont déjà.
Évidemment, en aval, l'ordre des médecins doit veiller à la formation continue de ces médecins. Mais ces médecins-là, ils viennent d'abord en amont. Le problème, il est d'abord celui de l'organisation de l'enseignement de médecine qui délivre à la communauté les médecins.
Et à ce jour, donc, l'inscription à l'ordre est obligatoire pour que vous exerciez la profession de médecin en RDC.
Non, pour exercer la profession, c'est clair, l'inscription est obligatoire. Nul ne peut exercer la médecine en RDC s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Je voudrais peut-être terminer cet aspect en amont. Vous savez, pendant plusieurs années, le pays avait, 3 universités. On ne rentre pas plus loin.
Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi.
Voilà. Tout le monde se souvient de la lutte qu'a menée l'ordre pour ne pas déverrouiller cet espace. À juste titre, à un moment ou pas. Le problème, je pense que il y a aussi d'autres réalités qui ont fait que
vous
l'État...
Vous parlez de multiplicité des facultés de médecine.
Je suis en train d'arriver. L'État, n'ayant pas résolu la question de l'absorption des élèves, des jeunes qui terminent, qui doivent embrasser la médecine, la médecine a été ouverte. L'organisation des études de médecine a été ouverte aussi au privé. C'était une grande lutte. On s'en souvient très bien. L'ordre a résisté pendant longtemps. Pourquoi?
Parce qu'à un certain moment, l'ordre refusait même d'inscrire à l'ordre de médecins, des jeunes médecins qui sortaient des universités privées.
Le problème n'est pas celui des universités privées, qu'on se comprenne très bien. Il y a des universités privées actuellement, d'ailleurs, à travers le monde, ce sont les universités privées.
C'est au fil du temps qu'on a
dû
maintenant juger la qualité.
Le problème, il était celui de la qualité de ces universités. Et ça a toujours été le cas, et jusqu'à présent même, de la qualité des universités. Maintenant, le problème est même allé au-delà, est revenu même au niveau des universités publiques de l'État. Donc, la qualité des universités. Actuellement, dans notre pays, nous comptons plus de 50. L'ordre a recensé environ 55 facultés universités qui organisent des écoles de médecine.
55.
Environ. Voilà. Donc, on se réveille.
Mais
on
dans quel état se trouve ces... Voilà. Je crois que c'est un débat qui est ouvert. Si vous le permettez, docteur Ntsadi Berthier, on va rejoindre les auditeurs qui nous ont d'ailleurs rejoints à ce niveau du débat, tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, 50 ans après, on fait les bilans de l'ordre de médecins. Faudrait-il repenser cette institution pour rendre encore plus efficace et plus dynamique et aussi plus proche de la population, et surtout aujourd'hui, la question sur la lettre de noblesse. D'aucuns disent, en tout cas, l'ordre de médecins a perdu cette lettre de noblesse, il faut la restituer. 09 97 06 63 30 ou encore 09 97 06 49 69.
Sont pour son jeune. Ils sont jeunes et incarnent l'avenir. Leur quotidien, préoccupation, ambition, c'est dans 100% jeune. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi. Une émission de jeunes, pour les jeunes et avec le jeune. tous les vendredis à 6h30, 13h30 et 20h30. Le lundi à 9h15.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Julien.
Alors, vous avez la parole, Gaston. 50 ans après, quel est le bilan que vous faites en observant un peu l'ordre des médecins, ses activités? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette institution, disons, instaurée par une ordonnance en 68, aujourd'hui a même perdu sa lettre de noblesse?
Bon, perdre, je ne peux pas dire totalement que cette institution a perdu sa qualité ou ses valeurs, mais du moins, il y a à dire par rapport au fonctionnement. Je suis d'accord avec le président quand il dit que c'est au niveau de l'ordre. Ils ne forment pas les médecins. Ça, c'est tout à fait d'accord. Il y a les universités qui doivent former les médecins, et à leur niveau, ils viennent inscrire les médecins dans l'ordre. Mais dis-moi, je suggérerais qu'ils puissent organiser un test, parce que la qualité, comme vous l'avez dit, et nous le constatons, la qualité a vraiment changé. Mais le point qui m'intéresse, je suis content d'être avec le président, de que le président soit sur le plateau, c'est le fonctionnement de cette institution. Mais c'est JR, nos frères qui terminent, ou nos amis, d'autres Congolais qui terminent en province, ils n'ont pas tous la possibilité de venir s'inscrire à Kinshasa. Je vous dis qu'il y a un problème sérieux du point de vue fonctionnement. Moi, j'ai reçu le dossier d'un de mien qui avait fini. Aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'il n'est pas inscrit depuis que j'ai payé. Et je vous dis, monsieur Zier, je passe chaque semaine à l'ordre, moi qui vous parle. Et même là, je suis en route pour l'ordre des médecins. Et quand vous arrivez là-bas, vous voulez voir le président? Non. Il y a certaines dames, je préfère peut-être taire leur nom pour leur protection. Et l'ordre, ils ne permettent pas ce qu'on rencontre le président qui est avec vous sur le plateau. Comment expliquer qu'inscrire un médecin qui a terminé peut vous prendre 7 mois? Je crois que le président vous dira que peut-être c'est un cas litigé, parce que c'est le vocabulaire qu'ils ont. Quand nous payons, il y a un récit qui est donné. Quand c'est un cas litigé, pourquoi ils ne peuvent pas appeler quelqu'un pour lui dire, monsieur, dans ton dossier, il y a ceci, ceci,
vous c'est un cas litigé. Oui.
Aujourd'hui, ça fait 7 mois que je passe par là. Il y a 3 jours, j'ai voulu échanger avec 2 gars qui sont dans l'antichambre du président qui est là. Ils ne donnent même pas accès à ce qu'on puisse rencontrer le président. Je comprends qu'il a une autorité, et une fois qu'il est au courant de ce qui se passe, il va agir. Mais néanmoins, je voulais souligner un autre point que j'ai constaté de mes propres yeux, M. JR. On ne peut pas monnayer, je le dis bien, nous sommes à la radio au Capi, on ne peut pas monnayer l'inscription d'un médecin dans un conseil national d'un pays. Parce que j'ai été appelé à soudoyer. Mais moi, ce n'est pas ma nature. J'ai refusé de donner l'argent. Je comprends pourquoi ça fait 7 mois que le médecin pour qui j'ai payé n'est pas sorti.
Vous n'avez pas trouvé, gars.
D'autres qui ont été inscrits après, au mois de septembre, au mois d'octobre, l'air n'est pas déjà sorti. Et le mien, depuis le mois d'août, il n'est toujours pas inscrit. Et donc, j'interpelle le président qui est là. Je suis en route vers son bureau. J'interpelle pour qu'il puisse faire un
Gaston, vous avez évoqué cet aspect des conditions d'inscription à l'ordre, mais on peut dire que vous évoquez surtout la question de la lenteur administrative, cette lourdeur-là, ça prend sept mois et comme conséquence, c'est-à-dire il y a le monnayage, il y a la corruption que vous n'acceptez pas. Et vous avez
vous le décrivez. Merci. Que je parle d'un cas
oui, c'est très important.
Je suis concerné, j'ai le dossier avec moi à main, c'est là que
tout
je parle. Je ne peux pas donner l'argent pour qu'un médecin qui a subi son cursus normal de l'université puisse être inscrit dans un ordre national.
Et quel regard portez-vous sur l'autre problème que nous avons également posé par rapport à cette question, la problématique des médecins étrangers qui exercent en RDC? Nous avons tous suivi notre invité tout à l'heure qui évoquait la question de la régulation et de la réglementation.
Oui, moi je vais...
De ce côté-là, l'ordre a échoué quand même.
Oui, je vais proposer au président de suggérer aux autorités qu'il y ait un test. Quelqu'un qui a fini à l'étranger, il n'a pas cette prétention d'avoir une bonne formation. Nous avons connu des amis qui ont étudié en dehors du Congo, mais qui étaient moins compétents que nous dans nos domaines. Donc, si le président peut suggérer qu'il y ait un test, je crois que c'est le seul élément qui peut donner crédit à ces médecins qui viennent
de l'étranger.
Sans le test, on ne pourra pas les qualifier.
Merci beaucoup, Gaston. Pour vous, les diplômes, c'est vrai, c'est une présomption de connaissances. Il faut soumettre tous ces candidats, les requérants qui sollicitent une inscription à l'ordre, de passer un test. Voilà. Donc, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Alain, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue. Alain, vous êtes à Kananga. Bonjour. On prend plutôt Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Alors, bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre contribution, Félicien?
Moi, je voudrais savoir si, en dehors de l'inscription au registre des médecins et dans l'ordre, et si l'ordre a encore une autre mission qu'il exerce. Parce que pour les avantages et les intérêts des médecins, ils ont déjà des syndicats comme Sinamed et autres. Mais qu'est-ce que fait l'ordre exactement quand on voit que dans ce pays, il y a beaucoup de décès qui sont dus
des erreurs médicales.
Erreurs médicales. Oui, c'est ça. Des négligences des médecins et tout ça, et des erreurs médicales et tout ça. Et ça passe comme si de rien n'était, alors que sous d'autres cieux, on poursuit le médecin, on voit s'il a négligé, on voit s'il a commis une erreur. Mais ici, chez nous, ce n'est même pas informé. Moi-même, j'ai été victime d'un cas comme ça. Tout un professeur, qu'on appelle professeur, il m'explique aussi bien comment ma sœur est morte, donc par erreur médicale. Parce que la chambre où elle était mise était infectée et elle ne savait pas. Donc, il m'explique comme si c'était une bonne nouvelle. Et vous voyez les bâtiments gérés par des médecins qui se délabrent, donc vraiment très délabrés, et alors que généralement sont des bâtiments laissés par des colons belges, et c'était bien fait, c'était propre. Aujourd'hui, nous ne savons pas les tenir dans cet état-là. Et l'ordre dit quoi à ces médecins qui gèrent là-bas? Mais quand vous voyez des factures que les gens payent, on ne peut pas comprendre qu'on manque même l'argent pour entretenir l'essentiel.
Merci beaucoup. Alors, Félicien.
Qu'est-ce que l'ordre des médecins, en dehors d'enregistrer les médecins dans l'ordre? Et voilà, même que j'apprends, même pour voir le président de l'ordre, c'est comme c'est si on veut voir le président de la République. Ça, c'est quoi ça?
Merci beaucoup Félicien, et là vous évoquez la question de la mission qui est assignée à l'ordre, qui est chargée d'ailleurs de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession médicale. Est-ce que quelque part il n'y a pas confusion lorsque nous voyons des cas d'erreurs médicales où il y a protectionnisme, il y a protection des médecins qui ont commis, parce que finalement les loups ne se mangent pas entre eux. Merci beaucoup Félicien. Docteur Yannick, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup. Je salue l'invité de ce matin et je vous félicite pour les sujets, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, quel est votre avis?
Ce que je vais dire ici, alors...
Oui, quel est votre avis, docteur Yannick?
Oui, ce que je vais dire ici, c'est par rapport, je vais revenir un peu par rapport à l'inscription. Je pense que notre ordre des médecins que nous respectons beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fini en 2016 à l'université de Lubumbashi. Mais à beaucoup d'amis qui ont fini, il faut faire des manœuvres pour envoyer leur argent au niveau de Kinshasa. Là, il y aura des gens qui vont marcher pour avoir votre numéro. Pourtant, ici, nous avons notre ordre. Si vous mettez, vous donnez l'argent ici, ça peut faire même 2 ans. Vous n'aurez pas votre numéro d'ordre. Vous voyez, c'est un peu très compliqué. On a vraiment compliqué la donne pour avoir ce numéro. Pourtant, si vous avez terminé, vous avez bien fait vos études, normalement, votre cursus, ça devait être automatique. Donc, vous donnez l'argent à partir d'ici et vous terminez avec cette histoire de l'administration. On vous donne immédiatement. Mais alors que nous devons normalement exercer, ça nous empêche d'exercer, nous perdons la main, vous voyez. Donc ça devient très très compliqué pour nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites 2 ans sans exercer. Maintenant, ce qui nous pousse à exercer clandestinement. Avec beaucoup de risques qu'on court.
Merci beaucoup.
Que je demande un peu au président de l'ordre des médecins, et que nous respectons beaucoup et que nous aimons beaucoup, qu'il puisse un peu regarder, jeter un coup d'œil sur ça. Ça devient très compliqué. Au lieu de donner l'argent normal, il faut doubler, soit tripler l'argent pour avoir votre numéro plus vite. Donc c'est comme qui dirait, c'est celui
donc
qui a
le monnayage,
qui a son numéro plus vite, que celui qui mérite d'avoir le numéro là. Merci. Vous voyez que ça amène un peu les
choses. Ça frustre certaines, oui. C'est de l'injustice. Merci beaucoup, docteur Yannick. Alors, c'est vrai, il y a des préoccupations également directes, docteur Tsadi. Quand je prends, par exemple, la préoccupation de Gaston, Gaston qui évoque la lenteur administrative et qui débouche même au monnayage de la démarche pour, de la demande d'inscription à l'ordre. Et Alain, Félicien, qui a beaucoup plus insisté sur aujourd'hui la mission qui est assignée à l'ordre, quand nous lisons l'article 2 de l'ordonnance qui parle de l'ordre qui est chargé de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession médicale. Mais en cas d'erreur médicale, on a comme l'impression que l'ordre protège les médecins, ou les médecins dans l'ensemble, ils se protègent. Et docteur Yannick, qui a évoqué des cas des médecins qui évoquent en toute clandestinité, parce que c'est cette question de la lourdeur, de cette question de corruption qui gangrène l'ordre des médecins.
Merci beaucoup. Je vais aller directement et vraiment rapidement et droit au but. Je suis content que les auditeurs, parfois même non médecins, évoquent l'hypothèse de commencer à organiser des tests. Eh bien, ça c'est encore un des combats de l'ordre médecin. Pourquoi? Nous avons évoqué ici la qualité des universités. J'ai évoqué le nombre des universités, mais je ne suis pas entré dans le détail sur la qualité des universités. Vous connaissez beaucoup d'universités qui ne sont pas viables. Les universités qui sont viables pour l'ordre de médecins ne dépassent pas 15. Pour l'ordre de médecins.
Sur les 55 que vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui, mais ces universités ont des agréments en bonne et due forme leur autorisant d'organiser des écoles de médecine. Voilà pourquoi, ça c'est le premier chantier, nos textes de loi, notre outil juridique doit être révisé. Ça, c'est le premier chantier. Absolument, pour intégrer la participation.
Donc, vous estimez que si on révise ces textes-là, la solution sera trouvée?
Il y a énorme. C'est un grand chantier. Et là, j'annonce justement que l'ordre de médecins fête ses 50 ans autrement. L'ordre de médecins fête ses 50 ans. Ça va chuter en août 2018 ici par un grand congrès. Mais maintenant, l'ordre de médecins a déjà commencé la préparation de tous ces outils. Il y a les textes des lois, il y a l'annexe 2, et il y a tous les annexes en rapport avec le fonctionnement de l'ordre et toute une série des textes qui finalement vont être adoptés en août lors de notre grand congrès.
Est-ce que tous les autres membres de l'ordre partagent cet avis?
Mais c'est des vœux. Ce que nous évoquons ici, c'est déjà évoqué depuis le troisième congrès de l'ordre des médecins. Troisième congrès, toutes ces dispositions. Donc, inévitablement, et nous avons une grande opportunité cette année, je l'annonce à toute la communauté médicale, nous avons une grande opportunité parce que notre ministre des tutelles, le ministre de la Santé, partage cette vision qu'il faut absolument aller vers les tests. Pas des tests pour révisiter à nouveau, non, des tests simples pour qualifier que celui-là, il a le minimum pour être médecin. Parce que, actuellement, de ce que nous vivons, de l'organisation des universités...
Mais qu'est-ce qui garantit, malgré les tests, nous avons vu avec les avocats, nous avons vu avec des magistrats, mais les gens continuent toujours à les crier, les l'impostisme, et puis la corruption. Qu'est-ce qui garantit, sincèrement, qu'il y aura du sérieux?
L'ordre des médecins, c'est un organe noble. Je l'ai dit, malgré qu'on a l'impression que l'ordre a perdu sa noblesse, ben nous, dans le cœur de l'ordre, au niveau du conseil de l'ordre médecin, eh ben ce n'est pas le cas. Et c'est justement pour cela que nous travaillons pour redonner à l'ordre, je l'insiste encore, des nouveaux outils pour que finalement l'ordre arrive justement à remplir sa mission correctement, parce que actuellement on est en inadéquation avec nos textes par rapport à beaucoup de dispositions. Les inscriptions qui durent 7 mois. Chers confrères, je voudrais vous rappeler, nous on a terminé il y a maintenant environ une vingtaine d'années. Déjà à cette époque-là, il y avait environ 7 universités à travers le pays. Quand je regarde les délais d'inscription entre la fin des études et l'inscription, un minimum de 3 mois. C'est comme cela. Maintenant, l'ordre est d'ailleurs en train de travailler pour qu'il y ait plus de délais, justement par rapport aux nouvelles dispositions que nous allons adopter. Pourquoi? Parce que ce qui fait traîner, c'est que nous recevons les demandes là à la porte. Nous devons vérifier le parcours de ces étudiants-là.
Le cursus, c'est...
ça doit, les dispositions que nous sommes en train de mettre en place, les propositions que nous sommes en train de préparer actuellement, vont faire que l'étudiant est connu de l'ordre des médecins dès son entrée à l'école de médecine. Comme ça se passe dans la plupart des pays, comme ça se passe dans l'espace SADEC. Dans dès l'entrée. L'étudiant est connu, le parcours de l'étudiant est connu, parce que c'est ce qui fait traîner le dossier. Mmh. Il a lui-même évoqué le problème, entre guillemets, dossier litigé.
Voilà.
Ce qui fait traîner le dossier, c'est que quand on amène...
Quand est-ce que vous déclarez un dossier litigieux?
Attendez, nous avons suivi ce qui s'est passé au niveau des, au niveau des magistrats. La situation est difficile. Il y a actuellement des faux documents. Faux, c'est-à-dire, le, au niveau du ministère, on connaît pas, on vous amène un diplôme. Beaucoup ont été peuvent être inscrits dans ces conditions-là. Et il y a des vrais faux, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas connu un parcours normal, mais qui se retrouvent avec un diplôme correct dû m'assigné par le ministre. Et donc, tout cela, au niveau de l'ordre, nous vérifions. Dès le départ, évidemment, c'est ce qui prend du temps. Évidemment, il y a toujours des dossiers qui arrivent à échapper à ces contrôles-là. C'est ce qui prend du temps. Avec le désordre qu'il y a, vous comprenez, au niveau des universités, eh ben, ça augmente le temps. Les victimes, et je le dis solennellement, les victimes, ce sont des étudiants, des médecins qui ont eu leur parcours normal, dont l'étude du dossier se retrouve être ralentie parce que envahie par défaut. 7 mois, effectivement, c'est beaucoup. Nous sommes entrés au mandat, nous avons dit, nous devons absolument tenir le délai de 3 mois. Ceux qui connaissent l'ont observé. Et puis se sont rendus compte que, à nouveau, nous n'arrivons plus à tenir ces délais. Ben, nous n'arrivons plus à tenir ces délais. Pourquoi?
Pour tous ces problèmes.
Pour tous ces problèmes, parce que les universités se sont plaints.
Donc, il faut déjà en amont. Alors, voilà. Docteur Tsadi, on va évoluer avec Omar, qui est juriste. Il va nous donner un peu des aspects juridiques. Omar, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour. Omar, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour Gilles, bonjour à l'invité.
Est-ce que vous pensez que 50 ans après, il faut repenser la mission qui a été assignée à l'Ordre de médecins, et surtout au regard de tous ces problèmes que nous venons d'évoquer, notamment sur la qualité de médecin, l'inscription qui doit être obligatoire, mais n'importe qui se présente devant l'Ordre avec un diplôme des médecins, quoi qu'il ne soit pas réellement médecin, et c'est tous ces problèmes que l'Ordre gère aujourd'hui.
Exactement Gilles, merci d'abord du verbe. Je pense que 50 ans après, les bilans s'imposent. Puisqu'on parle de l'ordonnance loi qui est un aspect juridique, il faudra rappeler à tous que lorsque l'ordre a été institué, il y avait un couple de soucis. Un, lister et identifier tout le médecin qui opère en RDC. Deux, ordonner et réglementer la profession pour éviter les dégâts d'aspect sanitaire. Et enfin, trois, garantir l'accès aux soins de qualité à tous citoyens. C'est au regard de ces trois impératifs que la loi a été mise en place. Mais 50 ans après, très cher JR, je pense que la réforme s'impose, car le constat est amer. Aujourd'hui, j'ai devant moi ici des bilans de l'OMS 2017. Il est démontré que 65% des décès dans les hôpitaux sont dus aux erreurs médicales. C'est déjà un problème qui soulève la société. Comme on se demande à quelle affaire nous avons. Moi-même qui vous parle, le 17 juin 2013, j'ai failli mourir à cause d'une erreur médicale. J'arrive à l'hôpital, il y a des sortes d'injections, il y a des intraveineuses et des étrages de quoi qu'on met dans la fière. Le médecin n'ayant pas bien acquis ses notions scientifiques, m'a injecté une chose au niveau de veine au lieu de faire au niveau de la chair. Et mis de telle intervention de mettre un médecin un peu âgé expérimenté, il serait peut-être mort. Donc il y a des erreurs médicales qui sont constatées et ça soulève la question des débats. Deux, aujourd'hui on a la qualité. Je voudrais vraiment qu'on puisse marteler. Moi je voudrais parler de l'université de Kinshasa où j'ai évolué. J'ai comme l'impression hier que c'est vrai, l'ordre peut agir, mais si en amont rien n'est fait, on ne fera absolument rien. Il faut voir dans quelles conditions et comment sont donnés les cours à l'université de Kinshasa en médecine. Vous allez voir des étudiants inconscients et des professeurs inconscients, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui n'étudie pas, qui ne revoit pas ses notes, et avant de passer, ce qui donne quelque chose. S'il n'y a pas assez de sérieux à ce niveau, on ne fera rien, rien du tout. Il y a autre chose. Aujourd'hui, toujours avec les rapports de l'OMS, on parle des maladies nosocomiales, c'est-à-dire des maladies que les patients viennent trouver à l'hôpital. Il faut voir dans quel état évolue le médecin aussi. On peut bien être formé, on peut bien être inscrit, on peut faire un concours, mais si les conditions dans lesquelles les médecins ne sont pas vraiment garanties, on pourra toujours crier rien, etc. Donc, regardez tout, c'est la très chère JR. Moi, je pense et je persiste. Ce qui garantit l'accès aux soins de qualité, ce n'est pas le diplôme qu'on a. Le diplôme n'est qu'une présomption. Il faudra qu'on puisse renforcer l'entrée à la profession avec un test rigoureux, comme ça se passe avec les avocats et les magistrats. Je pense que c'est vraiment parmi les solutions salvatrices. On peut dire qu'on est diplômé en médecine. Il faut qu'on évalue, qu'on fasse un test d'aptitude intellectuelle. Les deux, j'ai constaté aussi, très sérieux, je voulais en parler au président, il n'y a pas un sérieux problème de régime disciplinaire. Chez les magistrats, chez les avocats, pour ne citer que cela, à part l'entrée à profession, il y a un suivi pour voir comment ces gens-là évoluent, est-ce qu'ils respectent la déontologie.
Mais c'est comme régime disciplinaire.
Une sorte de confraternité au niveau de médecins. quelqu'un peut commettre une erreur médicale, ils appellent ça confraternité, solidarité professionnelle et très professionnelle. Il n'y a pas assez de sanctions. Or, vous savez, en psychologie, on dit, s'il n'y a pas de sanctions, l'infraction perpétue. Donc, le régime disciplinaire, très cher président de l'ordre, il faut aussi empêcher, c'est-à-dire, on est en profession, on exerce, dès que vous remarquez des dérapages, il faut sanctionner les fautifs. Et enfin, je voudrais aussi parler aux gens qui sont censés garantir les droits à la santé, savoir les gouvernants. On peut bien être formé en médecine. On peut réussir à un concours de tests d'admission à l'ordre. Mais si on ne travaille pas dans de bonnes conditions, en tout
c'est
cas,
déjà un problème. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup, Omar, d'avoir contribué. Alors, on va prendre Dominique et puis on revient à vous, docteur Sadi. Dominique, vous êtes en Bougimbaye. Bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour, docteur.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
À ce niveau, monsieur JR, ça sera déplorable que l'on recoure encore à une réforme. Et si vous voyez, ceux qui veulent réformer, ils visent plus ceux qui viennent au corps que eux-mêmes. Parce que le président de l'ordre là, il sait que à leur niveau, ils n'appliquent pas toute la rigueur de la loi. Ces médecins, ces étudiants ici ont beau souffrir, ils ont beaucoup souffert à l'université. Imaginez, par exemple, en Bougimbaye ici, ils font 8 ans d'études. Quelqu'un qui termine, pour que l'on signe son numéro d'ordre,
Monsieur Dominique, mais comment savoir qu'effectivement ces jeunes étudiants ont suivi en bonne et due forme son cursus de médecine?
Et c'est la seule faculté où, pour que quelqu'un devienne médecin, on vérifie déjà, on vérifie chez eux. Pour devenir avocat, on a besoin du diplôme de licence. Mais chez eux, on a besoin du cursus. Et même, je vais déplorer quelqu'un qui, dans son parcours, n'a pas su étudier 2 ou 3 ans chez eux. Là, il refuse à cet homme d'être médecin parce qu'on prétend qu'il doit justifier les nombres, les années où il a été absent de l'université. Et des gens comme ça qui ont beaucoup souffert, vous voulez encore aujourd'hui réduire et encore rendre plus drastiques les conditions. Vous allez même jusqu'à l'université. Donc on remet en cause tout. On remet en cause tout, M. JR. C'est pour aller dire que non, à l'université, on n'étudie pas, à l'université, on ne fait pas. C'est que, carrément, on va dire que les enseignants de l'université n'enseignent plus. Comme ça,
c'est un débat qui est lancé
à 5 ans pour tous les autres. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent faire là, qu'on réduise alors à 50 études.
Merci beaucoup, Dominique. Le fait qu'on va rendre encore plus drastiques les conditions, il faut réduire aussi le nombre d'études pour permettre à ce que, Alors, docteur Sadi, comment vous réagissez?
Merci beaucoup. D'abord, j'ai entendu parler des réformes. Je ne sais pas de quelle réforme il s'agit. Nous parlons de la révision des textes de loi. Ces textes de loi qui ont été publiés en 1968, 50 ans après, il y a eu des ordonnances de loi complétantes. Mais 50 ans après, le corps, la vraie révision n'a pas eu lieu. 50 ans après, nous sommes dans des conditions totalement différentes. Donc, c'est une priorité et une grande priorité, voire une urgence pour nous. Deuxièmement, justement pour terminer justement la question de l'inscription, je reviens sur les confrères qui a parlé de monnayage.
Les gens qui opèrent maintenant dans toute clandestinité.
Chers confrères, l'ordre de médecin est caractérisé par la probité. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes au niveau du circuit administratif. Il faut nous les rapporter. Il n'y a aucun autre frais.
Mais c'est difficile de vous voir.
Non. L'administration existe.
Peut-être l'information
vous
ne va pas
arriver.
Il ne va pas remonter jusqu'à
notre
niveau.
Tous les médecins connaissent le président. Tous les médecins savent atteindre le président. Évidemment, dans nos réformes également en interne, au niveau fonctionnement, nous sommes en train de prendre des nouvelles dispositions pour rapprocher, pas forcément physiquement, mais rapprocher les médecins tout au moins ceux qui viennent demander l'inscription au bureau. Voilà. Donc ça c'est. Mais il faut, si vous avez des observations, il faut les rapporter. Nous en entendons souvent, mais nous n'avons aucune preuve. Simplement parce que très souvent les gens croient que lorsque son dossier traîne, on est en train de lui demander. Non. Le dossier qui traîne, tout simplement, c'est dans le circuit de vérification. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des médecins qui déposent le dossier 2 semaines après, ils ont leur numéro. C'est comme cela. Je reviens sur une disposition très importante que nous avons ajoutée dans le processus. Ceux des provinces, effectivement, les médecins de province s'est retrouvés dans l'illégalité donc d'exercer la médecine sans numéro parce qu'effectivement, ça prenait beaucoup de temps. Eh bien, nous avons changé les choses. Chers confrères de province, vous terminez, vous déposez votre dossier au conseil provincial. Ne l'amenez pas à Kinshasa, ne le remettez pas à votre cousin, ça va prendre plus de temps. Parce que
cette disposition entre en vigueur quand?
La disposition est déjà entrée en vigueur depuis janvier 2016. C'est cette disposition d'ailleurs qui a fait que l'ordre des médecins, et ça c'est très important, de que toute la communauté de la RDC l'entende, l'ordre des médecins a supprimé une disposition qui rendait les praticiens sans numéro d'ordre qui bloquaient leur inscription parce qu'ils exerçaient dans l'illégalité, a déverrouillé et leur a demandé de déposer leur dossier au niveau
des conseils provinciaux.
Les médecins, ceux qui étaient en ordre, ceux dont les dossiers étaient clairs, ont été régularisés, inscrits. Vous déposez votre dossier à votre conseil provincial, vous ne dépasserez pas 3 mois. L'objectif est de 1 mois pour avoir un numéro d'ordre parce que les conseils provinciaux connaissent les universités, ils font une première vérification et nous envoient les documents et nous connaissons que à 2000 kilomètres, il faut régler la question très rapidement et pour ne pas que le récipiendaire
voilà, je compte des médecins qui ont déjà si cette disposition a déjà produit des effets, certains médecins vont peut-être nous rejoindre également dans ces débats 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69. Oui.
Alors, allez-y. Je voulais revenir sur le problème de ces erreurs médicales. Chers auditeurs, la médecine est liée au problème parce que les médecins travaillent sur l'être humain. Les médecins ne travaillent pas sur les bâtiments, sur des organes inertes. Non, sur l'homme. Les médecins, pas sur dans la médecine humaine, même pas sur les animaux. Donc, c'est une profession extrêmement difficile. À travers le monde, il y a des problèmes parce que c'est une science qui demande beaucoup de rigueur. C'est pour cela qu'il existe l'ordre, pour minimiser au maximum ces problèmes que vous décriez, que nous décrions, des accidents, et ainsi de suite. L'ordre exerce ses missions. Pour que l'ordre soit informé qu'il y a un problème, l'ordre doit être saisi. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. L'ordre doit être saisi. Vous ne devez pas constater des choses, vous vous plaignez, et vous ne saisissez pas l'ordre. Mmh. Tout au moins au niveau du conseil provincial. Si le conseil provincial n'est pas saisi, vous avez la latitude d'informer le président national qui a latitude de s'auto-saisir et d'instruire le conseil provincial pour
est-ce qu'il y a des sanctions qui, quand l'erreur médicale est constatée, c'est une faute grave quand même dans la profession.
Je réponds directement à la question de l'auditeur qui demandait quelle est l'autre mission de l'ordre en dehors de l'inscription. Ben nous avons dit l'ordre tient les tableaux de l'ordre médecin, mais l'ordre veille aux qualités de bonne moralité de probité et à l'observance des devoirs déontologiques et professionnels. Ben, c'est une grande mission de l'ordre que l'État a confiée à l'ordre. C'est-à-dire, veiller à ce que ce médecin-là soit...
Est-ce que vous êtes arrivé déjà à récupérer le numéro d'ordre à un médecin qui a commis une erreur médicale?
Une des commissions importantes, la première des commissions d'ailleurs, qui est supervisée par le président de l'ordre, que ce soit au niveau provincial qu'au niveau national, c'est la commission de l'éthique et discipline. Voilà, c'est justement pour vous dire que la première des missions... C'est celle-là. Ben, les commissions de discipline au niveau des provinces travaillent, exercent. Il y a des conseils disciplinaires qui se tiennent dans toutes les provinces et les appels au niveau national.
À ce jour, combien de médecins ont déjà été sanctionnés pour des cas d'erreur médicale?
Le problème, il n'est pas de savoir combien de médecins sont sanctionnés. Non. Ben, si tous les médecins...
Parce que c'est votre rôle de réguler.
Ben, justement, si tous les médecins exercent normalement, ils ne doivent pas être sanctionnés. La question est... Combien des dossiers sont soumis à l'ordre du médecin et qui n'ont pas trouvé de suite? C'est ça.
Combien déjà?
Non. Ça, ce n'est pas à l'ordre. C'est-à-dire, combien de dossiers soumis à l'ordre?
Des gens qui n'ont pas saisi, le conseil n'a pas...
Qui n'ont pas saisi, justement. Et donc, ceci, ici, c'est quelque chose de très important que nous apportons. En dehors de cela, je voudrais dire ceci, et ça c'est aussi important, c'est que les résultats des soins ne dépendent pas seulement d'un individu. Médecin. Oui. Voilà. Il y a le, pour soigner un malade, c'est tout un ensemble. Où il y a le médecin, il y a les infirmiers, il y a le laborantin, il y a l'institution, l'hôpital, il y a tout un ensemble. Là, je fais encore le pont justement avec l'un des autres, oui, justement, qui a parlé des infections nosocomiales et autres. Ben là, c'est la confusion et je profite de cette occasion pour lever cette confusion. Ben les hôpitaux de l'État ou les privés, c'est pour les privés. Ben les hôpitaux, ce sont des hôpitaux. Les médecins travaillent dans les hôpitaux, ils sont employés par l'État. Congolais. Donc, les hôpitaux, les infrastructures n'appartiennent pas aux médecins, n'appartiennent pas à l'ordre des médecins. Le déficit en termes d'infrastructures, ce n'est pas le problème de l'ordre des médecins.
Ou évidemment, l'offre de santé qu'on donne.
Voilà. Évidemment, dans ces missions, puisque les médecins doivent travailler dans des bonnes conditions,
ça, c'est la mission
l'ordre
de l'État.
Des médecins pousse l'État à ce que les médecins soient dans des conditions
viable
pour permettre à ce que les résultats soient les meilleurs possibles pour la population. Et donc, l'État met en place les ressources humaines, notamment les médecins et puis tous les autres professionnels de santé. L'État dispose des hôpitaux, des infrastructures, et l'État dispose des matériels à l'intérieur de cela.
Voilà. Donc, voilà. Alors, il y a deux autres qui nous ont rejoints. Docteur, oui. Vous allez revenir. Michel qui est à Kinshasa et docteur Bruce Aboukavou. Michel, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes très intéressés par le thème, tout simplement parce que depuis quelques temps, nous sommes en train d'élaborer, disons, de très grands ouvrages qui sont intitulés Les organisations ordinales RD congolaises et face à la mission sociale d'intérêt public ou d'intérêt général. Et nous sommes en train, en fait, de faire le bilan et les perspectives depuis 50 ans des organisations ordinales congolaises. Je voudrais depuis m'abord rappeler qu'une organisation ordinale ou un ordre professionnel a pour mission d'assurer la protection du public. Et pour ce faire, l'ordre agit d'abord en contrôlant l'accès à l'exercice, l'accès à la profession. C'est par là qu'il faut avoir un numéro d'ordre. Mais une deuxième activité, c'est de contrôler l'exercice de la profession. Je suis désolé qu'on est en train de centrer le débat sur l'accès à la profession ou l'obtention des numéros de l'ordre, comme si la profession s'exerce correctement. Alors, pour que la profession s'exerce correctement, il y a des structures d'une loi ordinale qui doivent garantir cet exercice de qualité. Ça veut dire, il y a par exemple ce qu'on appelle les sections professionnelles. Je suis désolé, mais beaucoup d'organisations ordinales congolaises n'ont pas une exception professionnelle. On ne peut pas tout simplement attendre à ce que l'ordre soit saisi. On doit au niveau de l'ordre contrôler, avoir des inspecteurs qui vont passer par tous les professionnels exercés pour contrôler comment ils exercent leur profession. Et s'il y a abus, les traduire devant la commission de discipline. Malheureusement, la plupart de nos ordres ne disposent pas d'une commission d'inspection professionnelle, ce qui est déjà un problème. Et un autre problème que je voulais ajouter, c'est que la plupart de nos organisations ordinales ne disposent pas de contre-pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'un ordre a reçu une mission du service public, qui est une mission de l'État. Et dans ce cas-là, on ne va pas laisser les organisations ordinales exercer comme elles le veulent. Il faut qu'il y ait une structure étatique qui fait les contre-pouvoirs des organisations ordinaires. Quand vous allez, par exemple, au Canada, il y a ce qu'on appelle, à part les structures de l'ordre, vous avez des structures étatiques qui, elles, ont pour mission de contrôler si réellement chaque ordre professionnel exerce sa mission correctement. Bon, du point de vue juridique, il y a un problème parce que la loi qui organise les différents ordres professionnels chez nous ne sont pas des lois qui peuvent assurer correctement la protection du public, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de structure qui organise les contre-pouvoirs des organisations.
Voilà, merci.
Mais demain, ce n'est pas de savoir si tel médecin a un numéro, tel médecin n'a pas.
Voilà, on a compris. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Vous avez épuisé vos 2-3 minutes. On va prendre le docteur Brice qui est à Bukavu. Docteur Brice, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution, docteur Bruce, à ce niveau du débat?
Merci. À entendre parler le président de l'ordre, il dit qu'il veille sur l'éthique et la qualité des soins qu'il donne les médecins. Mais ma préoccupation est de savoir qu'est-ce que l'ordre pour veiller à la réalisation de cette éthique et de cette qualité. Parce que l'ordre même ne fait pas d'encadrement des médecins. que ce soit les médecins qui finissent, que ce soit les médecins qui ont déjà terminé, l'ordre ne fait rien pour pouvoir assurer leur encadrement, en fait d'assurer cette qualité et cette éthique qu'ils disent. Les médecins qui sont infectés, si on a des numéros d'ordre, tu peux avoir un numéro d'ordre depuis 2009 et quelqu'un a fini aujourd'hui, son numéro d'ordre, il est affecté. Pas de notion d'encadrement, pas de notion de
voilà. Suivi sur les on a des petits soucis un peu avec votre ligne, la communication n'est pas très fluide. Alors on revient à vous, docteur Sadi.
Merci beaucoup. Eh ben, j'ai trouvé sincèrement très pertinent.
L'intervention de Michel.
Oui, très pertinente ces deux interventions. Mm-hmm. Sur l'inspecteur, une sorte de structure
d'inspection.
Mm-hmm. Ben, en fait, l'ordre lui-même, c'est l'inspecteur des médecins. Mm-hmm. Voilà. Effectivement. Bien. Ben, sincèrement, l'ordre est censé inspecter, descendre sur le terrain, et c'est pour cela sur le terrain, c'est pour cela que l'ordre au niveau national n'est pas perché comme cela. C'est pour cela que l'ordre a des représentations au niveau des provinces, et au niveau des provinces, l'ordre, et ça c'est encore une des premières réformes déjà, et j'annonce au niveau de médecins, l'ordre dans le projet de révision des lois qu'on va soumettre à son excellence, l'ordre a rendu les cellules en organe à intégrer. Parce que les présidents des cellules sont censés être des inspecteurs au niveau des cellules et jouer effectivement leur rôle. Ça, c'est une observation qui est réelle. Peut-être que au niveau de nos représentations, on n'agit pas comme il se doit, mais nous.
Donc c'est la proactivité que vous voulez créer.
La proactivité, absolument, parce que l'organe lui-même, c'est un organe d'inspection. En fait, l'ordre est censé envoyer les inspecteurs, ses inspecteurs, entre guillemets, partout. En dehors, bien sûr, de l'inspection de la santé. La deuxième observation, ça j'ai apprécié, la deuxième intervention, le contre-pouvoir. Ben, pour votre information, l'ordre national est doté d'une sorte d'un contre-pouvoir à l'intérieur, c'est-à-dire à l'ordre est attaché au niveau national à un haut magistrat. Et le haut magistrat, il siège en tant que membre du conseil pour veiller au fonctionnement de l'ordre dans les débats que nous avons lors du conseil. Et le haut magistrat rappelle toujours et insiste sur le bon fonctionnement, et ça c'est déjà extrêmement important. Évidemment, au niveau du pouvoir, une contre-régulation, mais il y a le ministère
de
la santé, hein, mm-hmm. Ne l'oublions pas. Le ministère a dégagé un organe, mais le ministère, le responsable et garant des répondants
de la santé, c'est le ministère de la santé. Sur dérogation de l'État.
Mais bien sûr, l'ordre est institué, justement, c'est un, en fait, on dit toujours, l'ordre, c'est un organe technique du ministère de la santé, mais à qui on a confié une particularité, c'est que l'ordre est autonome.
Voilà. Un autre défi, je crois que vous avez toute une liste de défis, mais à un certain moment, on pensait que l'ordre, c'était une affaire des individus. Des personnes, des présidents nationaux que vous êtes, donc sans vous, l'ordre ne va pas exister.
Pas du tout.
Est-ce que ça, c'est le défi? Il faut vraiment
l'ordre, c'est un, et c'est justement cela, c'est pas un problème d'individu, c'est un conseil. Les juges de médecins, c'est un corps, c'est un conseil. Et donc, toutes les décisions sont prises, le bureau du conseil est présidé, le conseil est présidé par le président, il est dirigé par un bureau, le bureau est présidé à nouveau par le président, mais l'ordre, en fait, c'est tous les conseils qui est les juges, qui est, voilà. Donc, ce n'est pas un problème d'individu. Et là-dedans, le mécanisme, les dispositions des fonctionnements sont claires, que nous sommes justement en train de renforcer. Nous avons terminé un des documents extrêmement importants qui est les règlements intérieurs et que nous allons justement maintenant diffuser au niveau de province. Et c'est tout cela, ce sont tous ces éléments, tous ces documents-là que nous allons officiellement adopter lors de notre congrès. Alors, le confrère qui a parlé de que fait l'ordre pour garantir, pour assurer l'encadrement des médecins, ben, c'est justement cela. L'ordre, entre autres dans la mission de l'ordre, c'est veiller à la... Et là encore, c'est le problème des textes. Nous voulons qu'au niveau des textes, que ça soit clairement établi, que l'ordre va mettre en place des mécanismes contraignants des formations continues. Pour l'instant, c'est dit, mais il n'y a aucun mécanisme contraignant par rapport à nos textes et lois. Alors que partout ailleurs au monde, il y a une obligation à justifier la formation continue. C'est comme cela que l'ordre est en train d'abord de demander à toutes les sociétés savantes d'exister.
Les jubilés,
des fonctionnaires réellement. C'est une. En fait, les jubilés, c'est un point de chute. Point de chute où finalement, et aussi bien la communauté médicale que la population sera alors informée de tout ce que l'ordre a fait.
Voilà. Qu'il est en train de faire. On revient à vous le temps peut-être de découvrir les sujets qu'on va traiter demain. Gervais, vous gardez la ligne. On revient à vous. Nous accueillons dans ces studios Nico Kalambay. Bonjour Nico.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
De quoi parlons-nous demain?
800 personnes, conseillers et personnels d'appoint compris, sont nommés et travaillent depuis une année maintenant à la primature. C'est ce qu'a affirmé à la presse Michel Somoué, directeur de cabinet du Premier ministre la semaine dernière. C'est le double du personnel que comptait le cabinet de l'ex-Premier ministre Adolphe Mouzito en 2009. Difficile de satisfaire les conditions salariales et aussi de gérer efficacement la mobilité du personnel, en termes des missions à l'étranger ou à travers le pays, a ajouté Michel Somoué. Que vous inspire cette situation à la primature? Vous pouvez nous appeler demain pour intervenir en direct au 081 890 49 69. Laissez-nous un message sur notre page Facebook sur ce thème qui sera donc posté sur notre page Facebook dans quelques minutes.
Merci beaucoup Nico et à très bientôt.
Merci.
Voilà, Gervais, vous êtes à Calémy. Bonjour Gervais.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs qui sont en train de suivre en ce moment.
Alors en une minute, parce que vous êtes les derniers auditeurs, quel est votre avis?
Oui, à ce niveau de débat, j'aurais bien voulu que cette ordonnance-loi puisse être bien modifiée, parce que elle est lacunaire à certains niveaux, vous savez, comme je l'ai souligné dans mon commentaire là, au regard un peu de l'inscription au tableau de l'ordre, il y a des problèmes. Si vous arrivez, vous consultez bien l'article 8 de l'ordonnance là de 1968, il n'y a aucune disposition permettant aux étrangers de bien vouloir travailler en République démocratique du Congo, comme c'est le cas chez les avocats, parce qu'il y a le principe de réciprocité qui fait défaut. Nous aimerions qu'à la prochaine occasion, qu'ils puissent un peu modifier et ajouter certains...
Merci beaucoup, Gervais.
Voilà. Les gens-là sont en train de travailler d'une manière illégale.
Merci beaucoup, Gervais. Nous rappelons l'article 8, dit ceci. Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre s'il ne possède les diplômes et certificats légalement requis pour l'exercice de la profession de médecin et s'il n'est d'une parfaite moralité. Voilà, docteur Tsadi. Commentaire de ce que Gervais vient de dire et puis un dernier mot, le congrès sera organisé quand? Quelle sera la matière qui sera abordée dans les congrès?
Merci. Les choses sont claires là-dessus, très claires. Nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Donc tous ceux qui exercent, nationaux comme étrangers, sans numéro d'ordre, sont dans l'illégalité. Surtout, c'est encore plus grave s'ils ne sont même pas reconnus ou ils n'ont même pas déposé leur dossier d'inscription. Même lorsque vous déposez le dossier d'inscription au tableau de l'ordre, vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas l'autorisation d'exercer et donc vous êtes dans l'illégalité et donc vous êtes passible de poursuites judiciaires, comme l'est dit la loi. Évidemment, nous devons améliorer...
Alors les médecins faussaires qui opèrent déjà, faites comme le ministère de la Justice,
oui.
Une commission pour dénicher tous ces médecins faussaires.
Mais bien sûr, je ne vais pas déployer ici tous les résultats, mais les médecins faussaires sont actuellement... traqués à travers le pays. Nous l'avons dit lors d'une communication en début de cette année, les médecins, nous avons dit, tout celui qui n'a pas de numéro d'ordre à partir de janvier, eh bien, l'ordre des médecins va ouvrir une traque. Que nous avons commencé, particulièrement au niveau de province, y compris ici au niveau de Kinshasa. Kinshasa fait un très grand travail. Kinshasa, c'est une grande ville, un très grand travail de recensement de médecins. Et d'ailleurs, cette activité-là est en même temps couplée. Le congrès, ben c'est justement ça.
Le
congrès, merci. Le congrès, nous le tenons en août de cette année. Ben, nous sommes rendus compte durant ces échanges que les différents points qui seront abordés au congrès ont été abordés. Premièrement, révision de texte de loi, l'ordre est en train d'y travailler. Grand chantier. Deuxièmement, c'est les nouvelles dispositions, notamment l'introduction des tests. L'ordre est en train d'y travailler. Troisième disposition, c'est les règlements intérieurs en interne pour renforcer les compétences de l'ordre. Et surtout une quatrième disposition, nos conditions de travail. L'ordre sera doté d'un siège nouveau pour lui permettre d'exercer sa mission correctement. Et je remercie tous les auditeurs et je vous remercie tout particulièrement pour cette invitation. Merci, je reviendrai.
Voilà, docteur Tsadi Berthier, président du Conseil national de l'ordre de médecins. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ces 57 minutes interactives ensemble avec nous. nous. Merci. Nous disons merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Pierrot Elamegi à la réalisation, Nico Kalambay au standard et Willem Lungamba à mise en onde de ces programmes coordonnés présentés par J.R. Lou Ngembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebujangwe. À très bientôt pour un autre numéro.